Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de Pré-Shot, le podcast du championnat national ESL. Je suis Walter et comme vous l'aurez deviné, dans ce tout nouveau podcast, on parle d'e-sport, de l'e-sport bleu-blanc-rouge qui commence dans l'Hexagone et qui s'exporte très bien à l'international. Dans Pré-Shot, on va découvrir, essayer de comprendre et suivre les acteurs de la scène française, qu'ils soient joueurs, casteurs ou bien coach, en gardant toujours en tête de repérer les futures pépites parce que c'est ça l'essence même du championnat national, faire éclore les talents de demain. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Apex, joueur pro pour Team Vitality et également ambassadeur des ECN sur Counter-Strike. On va parler de son nouveau rôle de capitaine, de ses souvenirs de début de carrière, du recrutement du jeune Mizuta qui sort des ECN, de voyages et d'autres sujets passionnants. Allons-y, il nous attend. Bonjour Apex, merci de me faire l'honneur d'être mon premier invité pour ce podcast.
Hello, pas de soucis, c'est moi qui te remercie d'être là.
Comment ça va en ce moment de confinement un peu spécial ?
Ça va, un peu craquage un petit peu à force. On est bientôt à 3 semaines là pour moi, donc ça commence à être un peu compliqué, mais bon, pas le choix. Hein. On écoute ce que l'État dit et on reste à la maison.
En plus, ça devait te faire vachement bizarre, toi, parce que sur ces derniers mois, je crois que tu étais parti 36 semaines sur l'année dernière en déplacement à force de faire des événements partout dans le monde.
36 a été dit, mais c'est un peu exagéré. On n'a pas fait 36 semaines, on en a fait à peu près une trentaine. Ce qui fait quand même un mois et demi en moins. Donc oui, on a fait une trentaine à peu près. Oui, c'est beaucoup. Surtout que, on va dire que je suis là depuis longtemps, donc je voyage depuis un moment. Donc là, une petite pause fait du bien, mais une petite pause... que à la maison, c'est peut-être un peu trop. Vous pouvoir bouger, faire 2-3 trucs, ça pourrait faire du bien aussi.
C'est vrai que le changement est drastique. Heureusement, tu as tes chiens. J'ai vu tout à l'heure sur Twitter que tu avais ton petit chien avec toi.
J'en ai deux. J'en ai deux. Donc ça va. Il donne le moral.
Ça aide. Un autre truc que j'ai vu aussi qui me fait rire beaucoup, c'est cette mode de se raser les cheveux. Dans toute l'équipe, tout le monde s'est rasé les cheveux aussi. Ça part d'où ce délire ?
4 sur 5. Alors le kiff de Richard Shox, qui voulait lui, depuis tout petit, depuis longtemps, avant ses 30 ans, voir son crâne. Donc il l'a fait. Et moi, j'ai suivi parce que je lui avais dit que je le ferais. Et parce que on n'a pas de coiffeur, je commence à avoir les cheveux longs. Ça me saoule un peu. Donc directement, mesure drastique, coupage de cheveux total. Voilà.
En temps de guerre, comme dirait notre cher président, ça fait un peu coupe militaire. Mais...
Exactement, mais si ça dure trop longtemps, le confinement, je ferai une partie 2, c'est très certainement.
Ah, intéressant. Et sinon, le fait de jouer des fois en online maintenant, comparé au format offline qui est vraiment le plus plébiscité sur SNCS en ce moment, ça fait quoi comme changement ?
C'est les matchs online, quoi. On a connu ça quand même pendant de longues années et c'est pas agréable à jouer, honnêtement. C'est pas le best, mais bon, c'est avec la conjoncture actuelle, il n'y a pas trop le choix, quoi. Donc on le fait et on essaie de le faire à fond. Après, ouais, comme je t'ai dit, c'est pas évident. J'ai l'impression de retourner quelques années en arrière. Les matchs online sont plus durs que les matchs en LAN. C'est-à-dire qu'une équipe moins forte peut gagner contre une équipe plus forte parce qu'elle va tenter plus de choses, parce que la personne est chez elle, elle se sent mieux qu'en LAN, moins stressée, blablabla. Donc ça fausse un peu les résultats, je dirais.
Ouais, on a eu pas mal d'équipes qui se sont fait surprendre récemment. Mais c'est quoi cette pression qui est supplémentaire que tu as en LAN ? Comment tu peux l'expliquer, toi ?
C'est humain, quoi. On est tous là, du moins les meilleurs sont là pour gagner. Et quand la pression est assez forte, que les deux équipes veulent gagner, c'est là que la pression monte. Donc automatiquement, tu vas tenter moins de choses, tu vas faire moins de choses un peu folles, etc. Parce que tu as peur de mourir et faire peur de ton équipe. Donc tu as peur d'avancer, tu as peur de tout ça. Donc c'est un facteur qu'il y a dans tout, hein, dans les sports, dans tout ça. C'est logique. Voilà. Oh, merde.
Ah.
Je vais faire tomber ma tasse de café.
Ah, les accidents qui ne peuvent pas arriver quand on est en LAN, justement.
Exactement.
Justement, est-ce que, vu que toi, tu as commencé ta carrière comme il y a 10 ans, hein, tu es devenu un peu un vieux maintenant, ça y est.
C'est ça.
Justement, gérer la pression, c'est ce que tu apprends, je suppose, le plus avec l'expérience.
Oui et non, oui. Alors, tu l'apprends par toi-même parce qu'à force d'en jouer, tu commences à la gérer, cette pression. Tu sais ce qui se passe. Tu joues sur des énormes scènes devant des dizaines de milliers de personnes plusieurs fois dans ta carrière. Donc, à force, tu commences à prendre cette pression comme un atout. Il y a beaucoup de joueurs de nos jours quand même qui jouent meilleur avec la pression. C'est dans le sport, c'est comme ça, etc. Donc voilà. Mais ensuite, là, depuis quelques temps, depuis peu de temps, on travaille avec un coach mental. Donc aussi, tout ça, tout prend son sens. sur beaucoup de choses, sur l'aide de la pression, des émotions, enfin de beaucoup de choses. Donc là, ça nous fait encore passer un cap par rapport à tout ça.
Le coach mental, d'ailleurs, c'est une des choses qui s'est développée au fur et à mesure des années, parce qu'à l'époque, quand tu as commencé ta carrière, bon, c'était clairement très trivial encore, les encadrements dans les équipes.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça a changé?
Bah, automatiquement, tout s'est professionnalisé sur CES, donc, dans les sports en termes général. Donc automatiquement, qui dit professionnalisation des équipes dit staff. Dit staff dit bah, on a un coach, un analyste, un manager. Un analyste, un assistant coach pour notre part. Maintenant on a un staff performance pour gérer tout leur game, donc c'est-à-dire qu'on se sente le mieux possible dans notre vie et pour performer au plus haut niveau. Enfin voilà, toute cette professionnalisation, tout l'argent, tous les investisseurs qui arrivent sur CS aident à l'amélioration tout simplement de CS et de l'esport en termes général, parce que bah, plus t'as d'argent, généralement plus les équipes se professionnalisent, comme je l'ai dit, et plus les gens mettent des moyens pour avoir les meilleures équipes possibles et gérer tous ces petits pourcentages qu'on peut avoir en plus. Que CS, bien sûr, c'est une grosse partie de notre boulot, mais c'est comme dans le sport, il faut sentir un peu bien partout pour performer, quoi. C'est pas juste une question de CS, quoi. Il y a tout ce qui est autour, quoi. La bouffe, le sommeil, le sport, tout ça. Quoi.
Ouais, c'est vraiment un truc qu'on retrouve beaucoup dans l'e-sport. C'est surtout le fait que, vu qu'il n'y a pas de limite physique, on va dire, les entraînements peuvent faire... tu peux t'entraîner pendant au moins 12 heures pour la journée, si ça pose
non,
pas de problème.
Alors si. c'est une erreur de penser ça, puisque pour la simple et bonne manière que si tu t'entraînes 12 heures par jour, crois-moi que tu ne seras pas frais et ce ne sera pas productif. Comme j'ai dit, je joue à CS depuis 13 ans maintenant. Je suis dans des équipes depuis 11 ans. J'ai tout essayé. J'ai essayé les 8 pracs par jour. Donc, ça fait 8 heures d'entraînement en équipe, etc. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas possible. Le but d'un prac, c'est que ce soit au maximum...
Efficace,
exactement. Qu'on joue de la meilleure des manières, qu'on s'améliore. D'accord ? Quand tu commences à en faire plus de... Déjà, le cinquième, des fois, il est compliqué. Parce que automatiquement, c'est ce que j'essayais d'expliquer la fois sur mon stream, c'est juste que quand tu joues à CS, c'est pas comme beaucoup de métiers, c'est pas pour dévaloriser certains métiers, c'est juste différent. Dans certains métiers, c'est juste que tu as toujours des petits moments pour penser, tu sais, pour t'évader un petit peu, etc. Ouais. Quand tu fais une game de CS, tu as rarement cette idée, ce truc. À moins si tu meurs tous les rounds en 15 secondes, oui. Et encore, hein, généralement, tu suis, donc tu fais pas de coupure. Donc en fait, le but sur CS, c'est d'être concentré pendant une heure sans s'arrêter. Et déjà, le cerveau humain, c'est pas quelque chose qui sait faire. Le cerveau humain, normalement, c'est, bah, d'après des spécialistes, il sait se concentrer 20 minutes de suite et ensuite il a besoin d'une pause. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, s'entraîner 12 heures, ce n'est pas du tout productif. Ça ne sert strictement à rien. Donc, le but est d'avoir des plannings, le fait les mieux possibles, c'est-à-dire bah, de l'entraînement individuel, des petites pauses. Donc je sais que par exemple, bah, là aujourd'hui, on a fait 13 heures, 16 heures de prac, 3 heures de suite, avec des petites pauses de 5 minutes entre les pracs, suivies d'une heure de pause, puis 2 heures de prac. Il faut avoir une petite coupure, etc. Parce que pareil, l'enchaînement de 5 pracs, c'est très compliqué. Enfin, vraiment, enfin, à l'époque, on jouait 6 pracs de suite, je te dis que les 5 et 6, aïe aïe aïe.
Ouais, c'était pas forcément le plus efficace, mais justement, c'était ce qui était... préconisé, on va dire, parce que le milieu n'était pas assez développé pour avoir cette expérience et ces retours.
Bah, c'était les prémices, quoi. C'était les prémices, t'es le premier, quoi. T'es l'initiateur du mouvement, donc bah, c'est à toi de faire les bonnes choses. Et c'est pour ça que maintenant, avec le staff performance, donc on travaille avec des gens comme Thierry Assion, qui est quand même entraîneur de plusieurs grands joueurs de tennis français, tels que Tsonga, Gasquet, Herbert et d'autres. On travaille avec Pierre Gauthier, qui est un ancien coach de tennis, qui est maintenant coach mental, etc. Ludovic Lacaille, qui a aussi fait une grande carrière dans le poker. Enfin, voilà, on s'entoure de personnes qui ont de l'expérience dans des domaines où il faut performer, la performance. Et c'est ça qu'on cherche à l'heure actuelle, c'est d'avoir cette performance la plus haute possible. En essayant de prendre des choses du sport traditionnel, etc. Parce que comme on l'a dit, nous on est dans les prémices et on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça qu'on s'aide de ce genre de personnes.
Comment se fait la relation entre vous qui êtes des joueurs pros de jeux vidéo et ces sportifs-là? Est-ce qu'eux ils jouent aux jeux vidéo? Comment est l'approche personnelle avec ces gens et leur rapport à votre discipline qui est sûrement nouvelle pour eux?
Alors eux, ils nous prennent pas spécialement comme des gamers, juste comme des gens qui performent, quoi. Eux dans leur vocabulaire, c'est pas genre e-sport ou sport ou quoi. On est juste des personnes qui sont là pour performer. Donc on a quand même deux personnes là que j'ai dites comme Thierry Assion et Pierre Gauthier, qui viennent vraiment du sport traditionnel, comme j'ai dit, du tennis, et Ludovic Lacaille, lui, qui était vraiment un joueur de CS à l'époque, donc 2005-2006, même avant, et qui est passé pro de poker pendant longtemps. Donc lui, il connaît plus. Mais les deux autres, ils nous prennent vraiment comme des gens qui performent. Pour eux, bien sûr, la discipline est vraiment nouvelle, ils ne connaissaient pas du tout avant, donc il faut un peu leur expliquer, etc. Mais c'est des gens qui connaissent tout ça, qui connaissent la performance. Donc quand tu connais la performance, au final, c'est la même chose pour tout le monde, que tu sois un grand pianiste, un joueur de foot, un joueur de golf, un mec qui fait de la voile, enfin tout quoi, le sport. Dès qu'il faut performer, au final, c'est les mêmes habitudes qu'il faut prendre, c'est les mêmes aides. Et c'est là-dessus. Donc il y a pas spécialement, ils nous prennent pas spécialement différemment d'autres sportifs, ils nous prennent juste pour des personnes qui performent, tout simplement.
À ta voix, j'entends que tu es passionné par tout ce qui est performance, etc., que tu as toujours l'envie de gagner. C'est un trait de ta personnalité ?
Oh oui, non, mais ça c'est la base de tout, hein. Je pense que le fait que je sois resté depuis si longtemps aussi haut niveau, etc., c'est aussi une des raisons que je sois là. C'est cette motivation, c'est cette envie de gagner.
Ouais, il faut toujours avoir envie de gagner.
C'est ça, j'ai peut-être gagné un majeur, bon, ce qui n'est pas du tout assez pour moi. J'ai gagné une quinzaine, vingtaine de tournois internationaux sur CSGO. C'est super, hein, mais le passé, c'est cool. Maintenant, moi, c'est toujours le futur. C'est ce que j'arrête. J'arrêterai quand j'aurai plus le niveau et quand je serai plus assez bon. Mais cette envie, elle est toujours là. J'ai toujours envie de performer, j'ai toujours envie de tout donner de moi-même. Là, on est confiné, je dois avoir 104 ou 105 heures sur CS, pass to week. Enfin, je donne tout, quoi. En plus, maintenant, avec mon nouveau rôle, ça fait encore quelque chose de différent. Mais en tout cas, oui, ça, la passion, de toute façon, si on n'a plus la passion, je pense que le haut niveau, c'est plus pour nous, quoi. À moins qu'on ait un talent hors norme. Mais ce n'est pas le cas pour moi, du moins.
Ça, je pense que c'est aussi un truc qui est commun à tous les sports, c'est qu'il faut vraiment être passionné pour se donner, sinon tu ne peux pas performer et surtout pas performer sur la durée. En parlant de ton nouveau rôle de capitaine lead IG, comment tu le ressens, comment tu l'interprètes ?
Alors, pour moi, être capitaine, c'est quelque chose de très important dans une équipe. Moi, je le prends vraiment comme quelque chose de vraiment sympathique et à faire, enfin incroyable, que j'ai 4 joueurs derrière moi et qui me font confiance, qui donnent tout pour enfin sur ce que je leur dis, etc. Donc c'est un rôle très important pour moi. J'ai eu de très bons leaders, mais ils ont toujours eu un petit défaut, etc. Et j'essaye moi d'avoir le moins de défauts possible à ce niveau pour être aussi un excellent leader, chose que j'ai énormément de travail, bien évidemment, parce que ça fait qu'un mois pour moi. Donc voilà, c'est vraiment un sentiment incroyable et j'espère pouvoir performer aussi sous ce rôle parce que c'est aussi quelque chose de différent encore, d'amener son équipe à la victoire en tant que joueur et en tant que capitaine.
C'est quoi ces fameux défauts dont tu parles ? Pas forcément besoin de citer des gens ou quoi, mais ça m'intéresse de savoir à peu près quelles ont été les choses que tu as repérées.
C'est assez simple, hein. À peu près tous les leaders que j'ai eu étaient vraiment têtus. C'était beaucoup, fallait beaucoup aller dans leur sens et pas trop dans le nôtre, les joueurs. Et c'était pas évident à gérer parce qu'un joueur, que ce soit dans le sport ou dans les sports ou dans quoi que ce soit, il faut qu'il se sente bien pour performer. C'est comme ça, c'est la base. Si tu te sens pas bien, tu peux avoir le talent que tu veux, ça servira strictement à rien d'essayer de performer parce que tu n'y arriveras pas. Et il y a toujours eu des joueurs, certaines personnes dans les équipes qui ont eu des fois moi, comme à la fin chez Vitality, ou des fois d'autres personnes qui ont eu du mal parce qu'ils ne sentaient pas bien, quoi, tout simplement. Et c'est ce que j'essaye d'avoir, que tout le monde se sente bien, de mettre tout le monde dans leur rôle de prédilection et performe au maximum. Et je pense que si j'arrive à faire ça, on arrivera à faire de belles choses, j'en suis persuadé.
Donc le plus important pour un capitaine, pour toi, c'est vraiment de connaître chaque joueur pour savoir comment il va réagir à n'importe quelle critique, etc.
Et de les écouter, parce qu'il y a un dicton qui est vrai pour moi, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, c'est une base, et que si quelqu'un se plaint et ressent quelque chose, c'est qu'il y a, peut-être des torts, mais c'est un tort partagé, c'est toujours comme ça que ça se passe, surtout au niveau, que ce soit dans un couple ou quoi, hein. Si quelqu'un reproche à quelque chose à l'autre, n'y a pas de fumée sans feu, mais les deux ont une part de responsabilité. Donc, évidemment que c'est ça, c'est la base de tout pour moi.
Bon, en gros, il faut essayer de le comprendre, de le questionner pour savoir d'où vient son problème, en fait.
C'est ça, mais après, généralement, les gens le savent. Ils disent, je me sens pas à l'aise dans ce qu'on fait, ceci, cela. Et puis après, bah, par rapport à ça, bah, t'essayes de changer les choses, de le mettre à une meilleure position, d'essayer de lui dire, bon, bah ouais, bah, peut-être là-dessus, tu vas devoir te sacrifier. Parce qu'il y a aussi une part de sacrifice. On peut pas non plus faire 100% ce qu'on aime sur CS. C'est pas possible. On est une équipe de 5, il y a des sacrifices à faire. Et il faut juste savoir les partager, quoi. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait 20% de sacrifice et l'autre 80%. Il faut tous qu'on ait 30%, par exemple. Et là, il y a une balance qui est bonne et à partir de là, tu peux performer. Et c'est comme ça que je vois un peu les équipes. Hein. Les équipes qui performent, généralement, c'est ça, quoi. Ce n'est pas une personne qui sacrifie et les autres qui kiffent, quoi. Ça arrive très rarement. Oui, tu pourras gagner un tournoi ou à faire des bonnes performances de temps en temps. Mais sur le long terme, ça ne marchera jamais. Et ça, c'est une certitude.
Je t'entendais justement par rapport à ça en stream parler de Ziwoo notamment qui devrait être amené à faire des sacrifices lui aussi.
Un petit peu plus.
Sachant que c'est une superstar, alors sans parler de son caractère, etc. Mais par rapport à cette position de superstar qu'il a, est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est plus difficile de lui demander de faire un tel ou tel sacrifice à tel ou tel moment?
Après, Mathieu, ce sera sûrement celui qui aura le moins de sacrifices. Parce que c'est quelqu'un qui, voilà, c'est la star de l'équipe, comme tu l'as dit, c'est le meilleur joueur de 2019, etc. Donc bien évidemment, oui, comme j'ai dit, il faut mettre dans de bonnes conditions. La seule chose, la différence qu'avait Mathieu avant, c'est qu'il avait zéro sacrifice à faire. Maintenant, au lieu de 0%, il en aura 5 ou 10. Mais c'est rien, tu vois ce que je veux dire. C'est juste, en fait c'est ce que j'essaye de faire, c'est par exemple statistiquement être plus proche les uns des autres. Que Mathieu a 1,50 et nous en dessous de 1, par exemple, de rating sur... Je parle du rating HL TV, juste avoir peut-être Mathieu à 1,35 et nous à 1,15, 1,10, etc. Et là, ça a du sens. Parce que c'est comme ça, c'est pas en ayant Mathieu à 1,50 et les autres à 0,95 que tu arriveras à performer. Et c'est ça le petit souci qu'on avait avant. Alex a été très bon à mettre Ziwoo dans les meilleures conditions. Honnêtement, il a fait les choses bien là-dessus. Mais le reste, c'était plus compliqué pour les autres, quoi. Et voilà, quoi.
Je suppose que ça participe aussi à répartir un peu mieux la pression entre les joueurs et aussi, dans l'autre sens, à revaloriser chaque joueur pour qu'il se sente forcément plus dans l'équipe et plus capable de se donner à 100%.
Bah clairement, parce que je vais prendre l'exemple de Shock, j'en ai déjà parlé en stream. Mais Shock, c'est évidemment un joueur qui a besoin... C'est un joueur spécial, je veux dire. Parce qu'il y a des joueurs... En fait, il y a deux types de joueurs sur CS, on va dire. Il y a un mec comme RPK, et un mec comme Shox. Shox, c'est quelqu'un qui a besoin d'être mis dans certaines conditions pour performer, d'accord ? RPK, c'est quelqu'un qui... C'est un soldat. C'est-à-dire que tu peux lui faire beaucoup de choses et ça ne changera pas son état d'esprit, d'accord ? Et son niveau. Même si, bien sûr, il sera encore mieux si tu le mets très bien. Mais voilà, donc il faut savoir aussi gérer ce genre de personnalité. Dire que Shox, il faut lui donner des responsabilités, il faut le faire jouer d'une certaine manière pour qu'il performe. Ensuite, avec Alex, bah, Alex le comprenait un peu moins, et ça c'est pas c'est la vie, quoi, c'est comme ça, et donc il le mettait pas dans les conditions optimales pour qu'il performe. Alors que ouais, RPK par exemple a été bon, Mathieu aussi, Ziwoo c'est quand même un bon soldat, et même si c'est un soldat un peu plus derrière, il aime courir, il aime aussi faire des choses pour l'équipe. Donc voilà, c'est pas comme si c'était une personne qui disait non, mais moi je veux juste être la star de l'équipe, je veux juste être derrière, mettre des clutches, etc. Blablabla, pas rusher, c'est pas du tout le cas. Donc aussi, il faut arriver à comme il est assez, par exemple, enfin, Ziwoo il est assez assez flexible sur sa façon de jouer, etc. Bah des fois, oui, je vais lui mettre des fois de mettre des stuff. Pas de rusher, parce que c'est compliqué, il l'a fait de temps en temps, mais c'est pas son rôle de prédilection et c'est pas là-dessus qu'il va nous faire gagner des rounds. Donc automatiquement, bah voilà, c'est un peu comme ça, c'est pas évident de gérer tout le monde. Pareil, enfin surtout là, moi je me retrouve à remettre Richard dans le mieux parce que j'ai envie qu'il performe. Je sais que c'est un excellent joueur quand il est dans sa zone et il faut le mettre dans sa zone. À côté, j'ai un nouveau joueur, j'ai Mizuta que même lui ne sait pas dans quoi il est bon, donc faut le tester un peu à gauche à droite. Ensuite, bah il y a RPK à mettre pas mal, Ziwoo aussi, donc il y a un énorme travail là. Ça fait un mois, il y a un énorme travail qui est fourni de la part de tout le monde, hein, on va pas se mentir, et on essaye de faire tout ce que j'ai dit là de la meilleure des manières.
En fait, depuis l'arrivée de Mizu, il paraît que c'est un renouveau de l'équipe, limite un redépart à zéro. Est-ce que le fait que, justement, avec la conjoncture actuelle, vous soyez dans une situation un peu bizarre où y a des majors qui sont décalés, des tournois qui sont décalés, des trucs qui sont plutôt online, est-ce que c'est un avantage pour toi de recommencer, on va dire, entre guillemets, à zéro dans cette période, ou est-ce que c'est banal?
Bah oui et non, parce que ouais, on a plein de games quand même, quoi. Donc oui et non, quoi, parce qu'on a dû faire la Pro League là avec une semaine de prac. On a réussi à faire barragiste, ce qui est pas mal. Bon, même s'il y avait quand même certaines personnes qui nous ont craché dessus, et je ne comprends pas comment on peut faire ça, alors que, enfin, avec si peu de temps, quoi. Il faut se rendre compte que vraiment c'est tout est nouveau, quoi. Moi, je n'avais jamais lead avant. Oui, j'ai colite, mais c'est pas du tout pareil. La préparation était beaucoup trop petite. Là encore, on est quand même toujours dans une prépa. Même si ça va beaucoup mieux, je vais pas mentir, bien sûr ça va mieux, mais on est toujours dans le pas assez, quoi. Il nous en manque un bout, quoi. Donc oui, il y a beaucoup de travail, et surtout quand on a un nouveau joueur comme ça qui n'a jamais été dans le top avant, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il comprenne le top. Il a, voilà, on va peut-être parler des ECN. C'est peut-être le tournoi le plus relevé qu'il ait fait, ou quelque chose comme ça, quoi. Donc il a du potentiel, mais il a beaucoup à apprendre, et moi aussi dans mon poste j'ai beaucoup à apprendre. Donc voilà, ça fait que ça avancera peut-être pas aussi vite que les gens veulent, mais en tout cas nous on donne tout de notre côté.
Ouais, je pense que c'est surtout ça, c'est le problème du temps. Généralement les gens qui ont de la passion et qui sont hypé par une structure, par une line-up, ils ont vu que ça marche tout de suite, alors qu'au final, il faut quand même prendre du temps et avoir plusieurs itérations, faire des erreurs pour apprendre.
Ouais, ça va au-dessus de faire des erreurs, c'est déjà tout simplement du temps, comme tu as dit, et voilà, de la répétition des choses. Il faut qu'on répète, il faut qu'on arrive à répéter les choses de plus en plus, de se remettre bien de tout ça, et c'est ça qui est important à l'heure actuelle. On en est assez loin pour l'instant, et on le fait tous les jours, et quand ça viendra une habitude, ça sera beaucoup plus simple. On fait encore des erreurs dans pas mal de choses assez simples, mais ça, c'est normal. C'est la base de tout.
Comment ça s'est passé, le recrutement de votre nouveau joueur, Mizuta?
Alors, on va pas se mentir, on était dans une situation un peu spéciale, puisqu'on était à 3 jours d'une deadline de roster lock, ESL Pro League, etc. Donc, on n'avait pas énormément le temps de réfléchir. On avait pensé à J, mais LDLC a demandé une somme faramineuse. Donc Vitality s'est dit normal, hein. ils ont eu une réaction normale en disant mais on peut pas payer ça pour un joueur qui n'a pas encore vraiment prouvé, et donc voilà, tout simplement on était là, et il y avait pas non plus beaucoup de joueurs sur le marché. Il y avait d'autres aussi, on avait réfléchi à Chaos par exemple, mais à Chaos à l'heure actuelle c'est pareil, c'est des contrats où il faudra acheter des sommes, mais des sommes incroyables. Hein. Même moi, chez Vitality, quand j'étais chez G2, je n'ai pas été payé à ce chiffre-là. Donc voilà, donc on s'est tourné sur des plus jeunes, encore plus jeunes que ça. Mizu allait rentrer une sorte de petit rôle d'ambassadeur chez Vitality. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas essayer. Vitality nous l'ont proposé, on a essayé. On a vu que c'était un joueur talentueux qui a envie d'apprendre, mais oui, il y a un énorme travail à faire par rapport à lui, parce qu'il ne connaît pas le haut niveau, quoi. Il a pas eu de 30, enfin, par exemple, Ziwo, on l'a pris, il avait un talent incroyable, mais il avait quand même joué dans une équipe, il avait quand même joué des LAN pas trop mal, etc., devant des publics, le SWSC, il y avait quand même 2000 personnes, etc. Il y avait quand même une marge, quoi. Il avait à apprendre, mais il était à l'étape au-dessus, quoi. Alors que Mizuta, il est encore à une étape très basse, quoi. Il a tout à apprendre, en fait.
Et toi, t'avais regardé un petit peu ses performances, je suppose, en ECN, notamment?
Alors, en fait, j'ai toujours été intéressé par le subtop pendant longtemps, jusqu'à ce que, on voyage énormément, quoi. Et quand tu voyages énormément, t'as beaucoup moins le temps de regarder les subtops, etc. Surtout quand t'es à la maison, par exemple, t'as envie de passer du temps avec ta famille, t'as envie de passer du temps avec tout ça. Donc, non, j'ai moins regardé les ECN pendant quelques temps. Mais je l'ai déjà vu sur des LAN, sur ses streams, en FPL, etc. Donc, je le connaissais un petit peu.
Comment tu vas l'aider à apprendre justement les choses qui lui manquent, à identifier ce qu'il a à focus en priorité? Comment on fait ce travail pour accompagner un jeune joueur plein de talent, prometteur, mais qui, comme tu dis, manque d'expérience et manque de plein de choses, je suppose, encore?
Oui, beaucoup de choses. Alors, moi, je l'aide, mais déjà, j'ai moins le temps, on va dire. J'ai déjà d'autres choses à m'occuper, moi, quoi. À l'heure actuelle, je sais que notre coach, ouais, Rémi, s'occupe beaucoup de lui. s'occupe énormément de lui parce que c'est une priorité, quoi. Il faut que Kevin se sente bien, il faut qu'il arrive à comprendre comment l'équipe se passe, comment le haut niveau se passe le plus rapidement possible. Parce que si lui met vraiment beaucoup de temps à monter, même si les quatre sont bien, ça ne servira strictement à rien parce qu'on aura, on aura une balance qui n'est pas bonne. Donc là, il se donne à fond pour le faire évoluer. Il le fait monter jusqu'à ce qu'il ait un niveau plus que correct. Et ensuite, bah, ce sera plus simple pour que tout le monde évolue en même temps et qu'on soit de mieux en mieux. Moi, j'essaye de lui donner des conseils. Je joue pas mal en binôme avec lui. On parle pas mal après les pracs, etc. Donc, j'essaye de lui donner des conseils sur des choses, des positions, des réactions, etc. Parce que CS, c'est beaucoup de réactions, c'est beaucoup d'instant T. Qu'est-ce qui se passe sur la carte? J'identifie, j'agis. Et au final, c'est ça aussi qu'il a pas encore. Parce que lui, bah, ouais, avant, pour lui, c'était, ouais, moi en tant que joueur, allez, j'essaye de tuer des gens. Et le reste, bah, on verra, quoi. Et alors ouais, qu'au final, que plutôt, bah, c'est.
Faut être coordonné,
exactement,
sentir
la
choses,
coordination.
Comment ça se passe, quoi.
On appelle les connexions, on appelle ça, nous, entre les joueurs, entre les binômes, les trinômes, etc. Et il a un gros travail là-dessus et il faut du temps. Ça, c'est une certitude.
Est-ce que tu, toi qui es là depuis très longtemps, justement, le parallèle entre des jeunes joueurs comme Ziwo qui a émergé là sur ces deux dernières années, comme Mizuta là qui vient de sortir un petit peu de son cocon, et toi qui as commencé il y a plus de 10 ans, c'est quoi les différences majeures que tu vois entre bah, les carrières, on va dire, comment ça se fait une carrière à l'époque et comment ça se fait une carrière aujourd'hui?
Alors, la différence qui est un petit peu, je trouve, et ce qui est un peu devenu malheureux, c'est que en fait, le tremplin, le plus gros tremplin qu'on a à l'heure actuelle, c'est Faceit FPL. C'est-à-dire que des joueurs inconnus qui viennent aussi de pays où les scènes ne sont pas super performantes. Je pense, enfin là, il y a beaucoup de, bon, il y a des Lituaniens FPL, il y a des Turcs, les Turcs, etc. Enfin, il y a beaucoup, il y a des très bons joueurs en Turquie, mais la scène elle-même n'a pas d'équipe internationale. Et donc les FPL, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est du skill, quoi. C'est du skill et les gens, bah ouais, ils ont un énorme skill, mais ils ne savent pas jouer vraiment CS. Donc, pour passer de ce tremplin de FPL à team, c'est pas pareil. Et c'est ça la grosse différence, c'est que nous, on est monté, mais on est monté en équipe. On avait des petites équipes, on apprenait à jouer à CS, on faisait des LAN, on essayait de bien jouer à CS, de tout ça, etc. On faisait des pick-up. Même les pick-up, ça jouait, mais ça jouait le mieux possible, quoi. S'essayer de bien jouer, de se mettre des flashs, trucs, de faire des trucs organisés, blablabla. Et au final, ça t'aide, quoi. Dès que tu arrives dans une équipe, bah, tu as quand même des bases pour jouer en équipe. Et là, bah, ces jeunes joueurs, je peux en citer énormément, hein. En FPL, il y a des Imor, des Tekwan, des Tekon, je sais pas c'est quoi, comment ça se dit exactement, des Synopsis qui sont chez Secret, des Juan Flatrou et tout, qui ont des skills incroyables. Ces mecs-là, ils sont très très skillés, mais ils ne savent pas jouer à CS. Et c'est là que j'ai un peu de mal, moi, c'est que il faut arriver à trouver une plateforme, quelque chose, un système plutôt, pour que ces joueurs, ils évoluent aussi dans le bon sens. Pas que dans le skill. Ils font du DM, c'est bien, ils mettent des headshots. Mais à haut niveau, les headshots, c'est cool. Mais si t'as pas les bases, ça ne sert strictement à rien. Le skill, c'est 25% de CS. 25, je dirais. C'est un quart de CS. C'est important. Mais il y a tout le reste. Le positionnement, le teamplay, tout. Enfin, il y a énormément de choses à connaître dans CS. Et c'est là le petit souci, c'est que la FPL aide beaucoup de joueurs et c'est super. Moi, je travaille avec Faceit et je trouve que c'est incroyable ce qu'ils font. Mais il manque ce petit truc pour que les joueurs soient plus performants encore, etc.
Et du coup, avoir des ligues plutôt comme les ECNs qui permettent justement d'avoir des équipes qui s'entraînent les unes contre les autres, c'est peut-être un format qui est plus intéressant pour...
Ah oui, clairement. Bah, clairement, il faudrait juste que ça ce soit un peu dans tous les pays, que tout le monde puisse évoluer, etc., dans ce genre de ligue. Mais après, bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ligues, il y a beaucoup d'équipes internationales. Par exemple, je te parle de joueurs, la Juan Flatrou et Synopsy, c'est des Albanais, je crois. Enfin, je connais pas d'autres joueurs albanais qu'eux, quoi. Donc, il peut pas trop y avoir de scène dans leur pays.
C'est mais, compliqué pour eux.
Mais par exemple, enfin, un truc simple, mais Warthogs, ils sont encore en ECN, non?
Ouais, ils sont là.
Ouais. En gros, c'est une équipe que j'ai vu qui avait performé pas trop mal. Et je trouve, par exemple, on les a joué en pratique tout à l'heure. Et j'aime bien parce qu'ils essayent de jouer un CS convenable. Il manque beaucoup de choses, mais ils essayent. Ils s'entraînent à jouer ensemble, à faire des tactiques, à essayer d'avoir des choses cohérentes. Et c'était agréable de les prac tout à l'heure, quoi. Alors que je sais qu'il y a des équipes, je n'accepterai pas de les prac parce que ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien, le style de jeu ne correspond pas vraiment. Et en tout cas, bah, moi, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui de jouer ces mecs. Et j'espère que ça va, que ce genre d'équipe vont continuer à s'entraîner, parce que même ce qu'a fait Flexor avec avec ses équipes, bah où il y avait Mizuta par exemple, ou même des, ou même Nivera, il leur apprend quand même à jouer un CS correct, même si encore une fois il manque encore beaucoup de choses, parce qu'on le voit avec Mizu, il lui manque quand même des grosses bases, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont bonnes et qui sont à reprendre de tout ça. Et c'est ça que j'apprécie. C'est ça que j'apprécie.
Ah, t'apprécies qu'on leur apprenne vraiment le vrai jeu plutôt que d'essayer de build des équipes avec des joueurs très talentueux mais qui, une fois arrivés dans le vrai haut niveau, bah, sont totalement perdus parce que bah, c'est pas du tout les mécaniques
chose.
Auxquelles ils ont été habitués. Quoi.
Bah, déjà, je vais dire un truc très simple. À l'heure actuelle, pourquoi une scène comme le Danemark domine autant et a autant d'équipes au très haut niveau, c'est qu'ils ont des formeurs, des gens qui te forment en dessous, en fait. Et c'est ça qu'on a manqué pendant longtemps, en fait. C'est, par exemple, je sais que des mecs comme KRL auraient pu le faire, mais vraiment à fond, quoi. Je te parle, un mec comme Undone, par exemple, c'est un des personnages les plus importants de la scène danoise, parce qu'il est resté pendant 5 ans dans le subtop danois. Il a eu 25 joueurs, mais ces 25 joueurs sont presque à l'heure actuelle dans des équipes pro top 5 du Danemark, quoi. Donc, et c'est pas anodin, quoi. Et il faut des formeurs comme ça, c'est très important. C'est pour ça aussi que la Suède a pendant longtemps là, a des problèmes à sortir de nouveaux joueurs ou à des équipes moyennes, etc. Parce que, à part Fnatic, bien évidemment, même NiP, bon, c'est pas mal, mais ça pourrait être bien mieux par rapport au talent qu'ils ont. Mais parce qu'il n'y a pas ces leaders. Et nous, on a manqué un peu de ça aussi, je pense, par rapport à des KRL qui auraient pu le faire, du moins encore mieux, ou des Exi qui ont pas spécialement voulu. Ou qui l'ont peut-être pas assez fait, quoi.
D'où l'importance d'avoir des réseaux, on va dire, d'entraide pour pouvoir progresser tous ensemble, notamment à l'échelle nationale, quoi.
Ah oui, mais c'est sûr. De toute façon, il faut des joueurs un peu comme un mec comme Undone, comme je dis, qui forme les. Ils forment peut-être pas à gagner un major, mais ils te forment déjà à aller à un major, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là déjà le premier step à avoir, parce que ça. Au final, pour des joueurs comme pour nous, bah, ça aide d'avoir déjà des joueurs qui arrivent et qui sont déjà formés, en fait. Parce que là, bah, y a tout à faire, en final, avec tous les joueurs. Et c'est ça qui est un peu dommage.
Au cours de ton parcours, de ta carrière, est-ce qu'il y a des moments clés où tu t'es dit, avec le recul, j'aurais dû prendre une autre décision, j'aurais aimé qu'on m'aide dans ce secteur de ma vie, de ma façon d'entraîner, de ma façon de jouer, de réagir, etc. Est-ce qu'il y a des moments charnières comme ça que tu regrettes ou tu aurais changé un petit peu les choses ou tu aurais aimé qu'on te tende la main plus facilement?
Bah, les choses que j'aurais un peu changé, c'est que, en fait, depuis qu'on a rencontré le staff performance, il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé, quoi, que ce soit dans mon attitude personnelle, dans ma réflexion, dans la façon de m'entraîner, etc. Donc oui, j'aurais tellement aimé que CS soit devienne pro comme aujourd'hui il y a 10 ans, et j'aurais peut-être fait même une carrière meilleure, même si ma carrière, je suis déjà fier, même si j'en suis loin d'avoir fini, mais meilleur que ça, en fait, parce que j'ai compris beaucoup de choses qui m'aident énormément de nos jours, en fait. Donc oui, il y a des choses que j'aurais aimé changer, comme j'ai dit avant.
Il y a des choses dont tu es particulièrement fier, des moments où tu t'es dit, tiens, là, j'ai pris la bonne décision, j'ai rejoint la bonne équipe au bon moment.
Bah, les bonnes opportunités, je pense que je les ai saisies. Envious en 2015, G2 en 2017, Vitality en 2018, même si peu de gens croyaient en nous, on est quand même réussi à devenir la meilleure équipe française et une équipe top de monde en moins d'un an. Donc, c'est quand même des choses. On a gagné 3 tournois internationaux l'année dernière. Enfin, on a fait de belles choses et oui, je suis fier. Après, la chose dont je suis plus fier, c'est ouais, peut-être Vitality d'être revenu au vrai niveau, d'avoir été au cœur du projet en choisissant, en aidant. C'est moi qui ai été démarché Vitality. C'est moi, je suis un des personnes qui a voulu prendre Xtase en coach. Enfin, tout ça, c'est des choses que je suis vraiment fier parce que je sais que j'ai pris les bonnes décisions et je sais que là, je me suis entouré de personnes qui me sont chères, qui sont plus que des collègues, qui sont devenus des amis parce qu'on partage beaucoup de choses et que c'est super d'avoir tout ça, même si on a changé pas mal de joueurs. On a quand même réussi à bâtir une équipe très solide. On a réussi à former un joueur comme Ziwo, qui est devenu le meilleur joueur de 2019. Ça aussi, c'est aussi bien sûr qu'il a bien sûr 95% du mérite, mais nous, on a nos petits 5% à se partager en disant qu'on l'a formé de la meilleure des manières, que c'est un, c'est, enfin, il y a aussi ça, par exemple, enfin, je vais parler d'un truc, mais par exemple, sa maman qui a fait aussi un travail, c'est vraiment dire un travail énorme en tant que juste de mère de famille, parce que c'est une personne qui est super gentille, Mathieu, c'est une personne qui a pas du tout la grosse tête, c'était le meilleur joueur du monde l'année dernière, mais, mais ils changent pas, quoi. Et ça aussi, c'est l'éducation et c'est important.
Si tu pouvais utiliser un petit peu tout ton savoir pour donner des conseils à des jeunes joueurs qui aujourd'hui voudraient poursuivre la voie de devenir pro player sur CS, tu commencerais par quoi ?
Je dirais qu'il faut travailler, il faut écouter les autres. Parce que le travail, c'est important. Mais il faut avoir beaucoup de recul sur soi-même.
De l'ouverture.
Et de l'ouverture d'esprit, bien évidemment, d'ouverture d'écouter les autres. Qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il pense que je suis, que j'ai comme problème dans le jeu ? Qu'est-ce que je dois retravailler, etc. Écouter les autres et trouver un terrain d'entente, pas rester dans sa bulle en disant non, mais c'est moi qui ai raison. L'ego, surtout en France, on a un petit souci là-dessus. Mais en tout cas, s'ouvrir, écouter les autres. Comme j'ai dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Peut-être des fois, il y a de l'exagération. Je ne dis pas le contraire, mais si on a trois personnes qui nous disent quelque chose, il faut changer, il faut essayer de donner. Et si on a cet état d'esprit déjà, même sans un incroyable talent, je pense qu'on peut déjà faire de belles choses, honnêtement.
Tu penses que ça aide que maintenant, il y ait une différence des fois de plus de 10 ans entre les joueurs qui sont là depuis le début et les nouveaux joueurs qui arrivent sur la scène? Est-ce que ça aide, à ton avis, qu'il y ait cette différence d'âge, cette différence de génération pour justement avoir un petit peu ce respect et un peu moins peut-être cet esprit de compétition, c'est le petit rageux qui voudrait pas, tu sais, oser demander un conseil, etc., en se disant bah c'est moi le nouveau, c'est moi la nouvelle star, toi t'as 3 ou 4 ans de plus que moi, c'est pas assez pour que je te respecte, on va dire.
Non, je pense que si t'es un petit con, tu peux être un petit con avec des gens qui ont 10 ans de plus que toi, en fait. Donc non, je pense pas que ça change quelque chose. Après, si ça change pour les personnes qui ont envie d'écouter. Parce que oui, quand moi je sais que honnêtement, pendant longtemps, si un ancien ou quelqu'un me disait quelque chose, j'essayais d'apprendre de lui, même si j'avais aussi un ego et j'avais aussi des problèmes, par exemple, de comportement, etc., quand j'étais plus jeune. J'ai quand même essayé d'écouter parce que je me disais, putain, je joue quand même avec ce mec-là. C'est un mec qui a fait ça. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien.
Pour revenir sur ton début de carrière, bon, on va revenir à des souvenirs dont tu te souviens même peut-être plus parce que c'était il y a 10 ans maintenant, mais est-ce qu'il y a des petites anecdotes, des moments, justement, quand tu jouais notamment aux EPS, etc., sur Source ou même sur CSGO, dont tu te souviens, tu te dis, c'était quand même vachement marrant et avec le recul, c'était un peu bizarre.
Bah moi, je me rappelle de mes premières LAN un peu dans un endroit un peu public. C'était les EPS 5 à la Japan Expo. C'était en plein milieu de la Japan Expo, c'était un sacré bordel, d'ailleurs. Etc. C'était EPS 5 ou 6, je ne sais plus. Ouais. Et je me rappelle d'avoir été... C'était sympa, quoi. Je trouvais ça sympa au milieu de la Japan Expo, un stand ESL, EPS, qui sont à peu près les ECN de maintenant, hein, où on s'ajouait, où il y avait des gens un peu disaient, putain, c'est quoi ça, du CS, enfin, les gens qui étaient venus regarder, etc. Moi, je me rappelle, c'était un très bon moment. C'était un de mes premiers tournois, c'était en 2010, c'était il y a 10 ans. Non, 2010 ou 2009 ? Je sais plus, c'était à 10 ou 11 ans.
C'est 2010, il me semble.
Ouais, c'est possible. Enfin, moi, j'avais 17 ans, maintenant j'en ai 27. Hein. Donc voilà, c'était le début. Enfin, moi, je sais que. Je sais pas, une anecdote sympa aussi, une de mes premières PXL. Donc, je faisais des PXL à l'époque. C'était quand même la LAN du Sud que tout le monde connaissait, qui était réputé, vraiment sympa, ouais. Très réputé. Et j'y vais pour ma première LAN. C'est en 2008. J'ai 15 ans. Je suis alors de base, je suis quelqu'un. Bon, maintenant les gens me connaissent, mais j'ai énormément d'énergie. J'adore faire le con, j'adore faire n'importe quoi, etc. Et à l'époque, j'étais encore pire.
Bah ouais.
Et en fait, je jouais ma première LAN, personne ne me connaissait, enfin très peu de gens me connaissaient. Et les gens qui me connaissaient, c'était pas seulement parce que j'étais bon, si, peut-être un petit peu, mais c'est surtout parce que j'étais un petit con, quoi, sur Internet. Et je me retrouve à cette PXL, enfin un peu foufou, trop stylé, enfin la première LAN, c'était un de mes meilleurs souvenirs, je pense, de ma carrière. Et en fait, juste à côté de nous, en fait, enfin ou devant nous, il y a le mix belge d'Existence. Et moi, je connaissais que si je le trouvais super fort et tout. Et en fois, voilà, juste pendant cette LAN, pour faire court, je l'ai fait craquer, je l'ai empêché de dormir. Enfin, moi, dormir, je voulais pas dormir, je voulais juste passer du temps avec mes potes, rigoler, etc. Et je l'ai fait craquer, je pense qu'il voulait me tuer à ce moment-là, je me rappelle. Qu'on en reparle un petit peu tous les deux, il voulait me tuer. Mais en tout cas, voilà, c'était un moment assez sympa de ma carrière, et de l'époque de dormir sous les tables, hein. pas d'argent pour les hôtels. Moi, je me rappelle, à l'époque-là, je devais faire 35 kilos, je pense, ma valise en faisait 45. Donc, pour porter ma valise,
ah oui,
avec mon écran et mon ordi dans le train, c'était une galère.
Et puis, à l'époque, c'était pas les écrans fins qu'on a aujourd'hui.
Ah si, j'en avais faim. Non, j'avais pas.
Ah,
j'avais pas. Non, bah non.
T'as pas les gros cathodiques
Venir avec un CRT à l'époque, c'était quand même compliqué. Surtout que j'étais pas très bon, donc je connaissais pas encore, fallait jouer avec tout ça. Mais j'avais déjà un écran LCD, mais qui pesait 25 kilos. Quoi. C'était plus lourd qu'un CRT. Le pied, je ne sais pas ce que c'était, mais il était trop lourd. Quoi. Et je me rappelle mettre ça dans ma valise. Hein. C'était n'importe quoi. En tout cas, c'était des moments assez sympas à vivre à l'époque.
Bah, ce qui est bien, c'est que c'est ça. C'est que généralement, c'est des souvenirs qui restent gravés parce que c'était la débrouille. C'était des moments de folie. Ce n'était pas forcément les plus optimaux hein, pour performer. C'est vrai que dormir 3 heures la nuit et, bah, parce que tu fais le con, généralement. Mais ça reste gravé.
Ça ne changeait rien à l'époque. Enfin, moi, je sais que j'ai gagné un match. Un de mes premiers matchs que j'ai gagné, qui était important pour moi, c'était une PXL contre Rocket. Et je jouais avec Existence d'ailleurs à cette LAN-là. C'était en 2010. En 2010. Et on bat Rocket. Rocket, c'était. Il n'y avait pas que Shox. Je crois qu'il y avait. Ah si, il y avait Shox, Smith, Mass, Lumpy et Matteo. Et on les bat en mix, mais j'ai dormi une heure. Quoi. J'ai dormi une heure par terre, mal, bouffé par les moustiques. Mais le lendemain, je me réveille et je joue. Je dis 15 minutes avant de me réveiller, avant de jouer. Et on bat ces mecs-là. Et... Donc oui, c'est différent, mais c'était quand même assez, c'était quand même incroyable quoi, à l'époque.
La fameuse devise du moins tu dors, plus t'es fort.
Ouais. À l'heure actuelle, je pense que tu me fais dormir sur une table et dormir une heure, je pense que je tue personne. Mais à l'époque, ça ne change rien à ma vie.
L'euphorie. Et je pense qu'aujourd'hui, tes coachs de performance ne verraient pas forcément ça d'un bon œil.
Ah non, pas du tout, non.
Surtout que tu dois montrer l'exemple, vu que tu es capitaine.
Exactement. Dodoto, bien dormir, pas de conneries. Important.
On mange des fruits, on fait un peu de sport.
Exactement.
Ils vont faire un peu de sport, Vitality ?
Bah, on a déjà le staff performance, ils nous en font faire un peu, mais aussi on a notre manager, Mathieu Péché, qui est un ancien médaillé olympique de canoë.
Canoë kayak, ouais.
Non, c'est pas pareil, faut faire attention.
Ouais, je sais.
C'est deux choses différentes, donc de canoë.
J'ai l'impression, vu que tu me dis ça, c'est qu'il t'a déjà réprimandé là-dessus.
Ah, il m'a cassé les couilles 2-3 fois, ouais. Il faut le dire, hein, qu'il est. Donc
oui,
bah, hein. oui. Donc oui, je connais, la différence est importante. Donc oui, on a des réveils musculaires. Ils nous demandent de faire au moins 3 fois de sport par semaine, etc. Donc oui, ils nous bougent un peu là-dessus parce que le sport, c'est quand même important. Notre corps, c'est ce qui fait tout. Donc d'être frais.
Bien réveillé.
Et la fraîcheur, surtout, je trouve, c'est le plus important.
Ça aide à bien sentir dans sa peau. Et quand tu sens bien dans ta peau, tu es plus performant.
Exactement.
Dernière petite question. Comment on fait quand on doit choisir une équipe, alors que ce soit quand tu reçois une offre ou quand tu as envie d'aller démarcher des équipes, c'est quoi les critères principaux pour toi pour rejoindre telle ou telle équipe?
Les critères. Bah déjà, il faut être fort. Hein. Faut être fort à CS, faut avoir du skill. Être un bon capitaine, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Mais je sais que, enfin, je vais donner un exemple de mon équipe avec qui je joue maintenant depuis bientôt 2 ans, c'est Cédric, RPK. C'est, je pense, le meilleur teammate que j'ai eu de toute ma carrière, sans hésiter en fait. C'est un mec qui ne pose aucun souci, qui, comme j'ai dit, un super soldat, qui est aussi depuis un moment, avant il l'était moins, mais qui bosse, qui essaye de faire les choses bien, qui essaye de s'améliorer. Et le mec, il a 30 ans aujourd'hui, hein. Il a 30 ans, Cédric, et. Mais j'ai l'impression que non, ça change rien là. C'est juste ce que tu as dans la tête et ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Soyez un bon teammate avec vos potes, parce que ça devient des amis. Et être un bon teammate, c'est quelque chose de très important. Avoir une bonne connaissance du jeu aussi. La connaissance de CS, c'est quand même quelque chose aussi qui est importante. Il faut savoir quoi faire. Il faut savoir comment gérer ceci, cela. Enfin, la connaissance, regarder des démos, les comprendre surtout, parce qu'on regarde des démos de nos jours en disant « Hey, je copie-colle ». Mais c'est pas ça, CS. C'est pas copier-coller, c'est juste comprendre ce qui se passe. Comment je fais ça? Comment je fais ci? Comment je m'améliore? Comment ceci? Comment cela? Et ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes aussi à connaître. Ensuite, déjà connaître beaucoup de stuff. Moi, je joue un peu avec mes subs sur Twitch. Et je sais que ils viennent, mais ils me disent ouais, je connais pas de stuff, etc. Il y a un petit peu de pub. Regardez mes vidéos YouTube. J'ai fait des stuff sur toutes les maps. Comment là, je vais faire des nouvelles choses aussi de comment attaquer les zones parce que c'est pareil. Enfin tout ça en fait, avoir de la connaissance, etc. Je pense que c'est les bases pour arriver dans une équipe et dire voilà, moi je suis pour vous, je suis bon, je connais plein de trucs, j'aime bien faire ça, j'aime bien ci. Enfin, voilà.
Donc prendre le temps de travailler des trucs qui sont peut-être un peu rébarbatifs, mais qui vont faire la différence.
Exactement.
Sur le long terme.
En fait, des gens vont peut-être trouver ça chiant. Alors moi, j'étais une autre personne. Moi, j'adorais ça. J'adorais faire du DM et chercher des stuff, en fait. Et je trouve ça tellement... En fait, trouver une flash et l'utiliser et qu'elle fonctionne et mettre bien son teammate, je trouve ça tellement valorisant en fait. Parce qu'on parle beaucoup de frag, on parle beaucoup de ça, mais les flash assist, les trucs, les machins, mettre bien ses teammates. Ah,
c'est une composante vraiment
c'est quelque
très,
chose trop important,
très importante.
Ouais. Moi, je sais que c'est des fois, je suis plus valorisant. Enfin, je me valorise plus à mettre une flash et que mon pote tue deux mecs blancs que moi faire double kill en fait. Je suis plus content en fait, tout simplement.
C'est quand même une grosse passe décisive au foot.
Ah
ou
oui,
un
oui,
truc comme ça.
Clairement, c'est un plat du pied. Un plat du pied dans la profondeur, sans le gardien, c'est quand même sympa.
Et puis, il faut des gens comme ça, parce que si t'en as pas, le buteur n'a jamais le ballon. Donc,
exactement, final, c'est exactement le truc, la comparaison qui est très, très bonne.
Bon, Apex, je te propose qu'on passe à une dernière séquence qui s'appelle le clutch. C'est un petit jeu dans lequel je vais te proposer, je vais te faire deux propositions à chaque fois, et tu vas devoir me répondre un peu du tac au tac pour choisir celle qui t'inspire le plus sur l'instant. Ça
okay,
te va ?
En avant.
Alors, est-ce que tu préfères avoir un gros salaire, mais gagner zéro major, ou gagner trois majors, mais avoir un petit salaire?
Ah, quand même, le petit salaire et trois majors, parce que dans tous les cas, si tu gagnes trois majors, dans tous les cas, t'auras un bon salaire après.
T'auras des gains, ouais.
Mais oui, mais clairement, le salaire, c'est cool, mais c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que ça changera quelque chose. Donc, je pense mettre sa patte dans le jeu, laisser son empreinte, c'est quand même important.
C'est comme ça que tu l'as ressenti quand t'as gagné ton major avec Envious?
Ouais, clairement, c'est un peu... gagner un major, c'est comme un peu finir le jeu. C'est bon, je suis le meilleur.
I did it.
Et voilà, mais bon, il y en a plusieurs à gagner, il n'y en a pas qu'un.
Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu préfères gagner grâce au talent ou gagner grâce au travail?
Travail 100 fois. C'est même plus valorisant. Le talent, tu dis ouais, j'ai du talent. Mais le travail, le process, juste le process. Tout ce que t'as fait chaque jour pour arriver à ce que arriver au point culminant, c'est incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable. Je l'ai vécu plein de fois. Hein. Et là, tu te dis, putain, on a fait la bonne chose, on a bien bossé. Ah, c'est trop stylé.
Tu repenses à ces heures de labeur, de travail.
Ah, mais oui,
d'échecs.
Mais de toute façon, le process, c'est toujours incroyable à vivre. Parce que quand tu te sens progresser, c'est le dénouement, la victoire, bien évidemment. Mais juste que tu te sens tous les jours, tu progresses, tu deviens meilleur, etc. Franchement, c'est stylé.
Est-ce que tu préfères partir à la montagne ou partir à la plage?
Donc, ni l'un ni l'autre, moi je suis pas m'en fous, moi j'adore visiter, moi. Donc je serais plus montagne dans l'idée, parce que la plage c'est joli, mais j'aime pas rester à la plage, je me fais chier.
Et d'ailleurs le fait de traverser tous les continents et pour le boulot, hein, finalement, ça te permet de découvrir des cultures. Vous avez eu le temps globalement un petit peu de découvrir un petit peu les pays, de visiter les villes?
Ça dépend.
Pas du tout.
Ça dépend si on va loin dans le tournoi, si on va pas loin, ça dépend de plein de choses en fait. Et si c'est sexy aussi, faut que ce soit sexy le pays à visiter, parce que des fois, il y a des villes, j'en ai une en tête, mais par exemple Sao Paulo, c'était pas la ville la plus incroyable de ma vie, et je suis allé qu'une fois au Brésil. Alors que bon, je sais que j'aurais rêvé d'aller dans d'autres endroits, etc. Mais là, oui, moi j'adore voyager en tout cas, j'adore, bah, vaut mieux avec le métier qu'on a, mais j'adore découvrir des endroits, etc. Et grâce à CS, ouais, j'ai découvert des endroits incroyables. J'ai découvert l'Australie.
C'est quoi ton top 3?
Je sais pas trop. Moi, je suis pas. Mes endroits préférés, j'en ai pas spécialement. Mais il y a des endroits que j'ai kiffé. Enfin, après. Grâce à CS, il y en a. Enfin, je sais pas s'il y a du top 3 grâce à CS. Moi, je sais que je suis allé au Japon et j'ai adoré. Les États-Unis. C'était pas avec CS, malheureusement, le Japon. Mais les États-Unis, j'ai fait énormément de villes. Je crois que je suis entre 15 et 20 États déjà. Mais j'ai adoré New York, j'ai adoré LA. Enfin, ouais, j'en ai plein, honnêtement, il n'y en a pas vraiment une, même des petites villes, enfin, j'aime beaucoup Varsovie, j'aime beaucoup Vienne, j'aime beaucoup Prague, enfin, il y en a plein, au final, j'en ai pas spécialement un top 3 ou une qui me vienne en tête, mais toutes les expériences étaient vraiment cool.
Ce que t'aimes, c'est découvrir des villes dans lesquelles tu serais pas forcément allé de toi-même, je suppose.
Ah si, parce que j'ai envie de découvrir le maximum d'endroits, je pars tous les étés en vacances pour découvrir... le maximum de culture, le maximum de choses. Donc si, j'aurais peut-être fait aussi, mais ça aide. On va dire que ça aide.
Bah c'est bien, t'as trouvé la bonne carrière.
Je crois que je suis dans le bon milieu.
si ça s'était développé l'e-sport en jouant que en ligne, t'aurais été un peu déçu.
Oh, de la merde, j'aurais arrêté directement.
Bah d'ailleurs, c'était la prochaine question, online ou offline?
Offline, il n'y a même pas besoin d'expliquer, j'en ai parlé 10 fois, je pense.
Est-ce que tu préfères gagner un match 16-0 ou 16-14?
Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Ça dépend contre qui. Si tu mets 16-0, tu te dis, ah là là, hey, on était trop fort, on ne peut rien nous avoir. 16-14, c'est aussi la bagarre, en fait. La bagarre de se dire, j'étais plus fort dans la tête, j'ai été plus loin, j'ai été meilleur, etc. etc., etc.
Tu préfères une line-up où il faut parler anglais ou une line-up full française?
Full française, j'ai joué que ça et il y a rien de mieux que...
Que la langue natale.
Que voilà, la langue natale et les gens avec qui on... Enfin, les gens qu'on connaît depuis des années, etc. Donc je pense que ouais, français, full français.
Et enfin, bon, c'est pour l'actualité, CS ou Valorant?
LOL. Ça te va comme réponse ou pas?
Ça me va, on va conclure là-dessus. Je pense que les gens ont compris le message.
Exactement.
Merci Apec de ton temps, c'était super. J'espère que tu as apprécié faire ce podcast avec moi. J'espère que les auditeurs ont pu en apprendre beaucoup sur toi, sur ta façon de penser, sur tes expériences, sur les conseils que tu as développés tout au long de ce podcast. Merci encore une fois, mille fois. Et puis, à la prochaine. Merci d'être venu dans Preshot, le premier épisode.
Merci à toi, Quentin, de m'avoir accueilli et de m'avoir posé toutes ces questions. C'était sympa à faire et see you soon.
Voilà, si ce premier épisode de Preshot vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes et à nous laisser un commentaire pour nous dire qui vous voudriez entendre dans le prochain épisode. Vous pouvez suivre toute l'actualité des ECN sur le Twitter ESL France ainsi que sur le site eslcn.fr et suivre les compétitions sur les chaînes Twitch d'ESL France. C'était Balter pour vous présenter Preshot, j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt.